Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC.
C'est quoi ce cirque?
Les grandes gueules du sport.
T'es grand, Quentin, tu es grand!
Jeanne et Serge.
C'est n'importe quoi, y'en a marre!
9h midi.
Je suis le consultant radio!
Bon fou. Donnez-lui ses cachets, s'il vous plaît.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, vous les avez entendues dans ce magnifique générique, votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi, les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast, tous les trois. En même temps, on est très heureux d'être avec vous ce matin, bon petit déjeuner, bon dimanche à vous, avec ce match de l'équipe de France face à la Pologne, 3e, 8e de finale de la Coupe du Monde. Jour des Bleus, on vous donnera toutes les dernières informations, le coup d'envoi, c'est à 16h. Nous connaissons également la première affiche des quarts de finale, match de légende entre l'Argentine et les Pays-Bas. On en parlera dans cette émission RMC Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ça va être une journée de dingue et on est très heureux de vous emmener jusqu'au coup d'envoi de ce match. Au sommaire des grandes gueules du sport. Allez, dans quelques instants, la une des GG, les Bleus affrontent donc la Pologne pour une place en quart de finale. Depuis quelques jours, nous cherchons les raisons de craindre cette équipe. Faut-il arrêter d'avoir peur de la Pologne? 9h40, l'inquiétude grandit autour du roi Pelé qui aurait été admis hier en soins palliatifs selon la presse brésilienne. Lui qui se bat contre un cancer depuis plus d'un an. Nous vous donnerons les dernières informations et nous serons avec des supporters brésiliens. 10h, nous passons la seconde avec cette phrase du gardien polonais Chesney qui a beaucoup fait parler. La meilleure arme contre Mbappé, eh bien c'est moi-même. Provoquer le génie français, est-ce audacieux ou courageux?
RMC Coupe du Monde 2022.
Les grandes gueules du sport ce matin. Une grande gueule qui, comme Robert Lewandowski, est le meilleur du monde à son poste, mais il fait un mondial dégueulasse. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Ah ouais, bah t'as qu'à me remplacer. Si tu veux.
J'en ai parlé avec Pierre Amiche, notre producteur. Je me suis dit,
je suis un peu le pavard de ton équipe, c'est ça?
Elle me fait beaucoup rire.
Je suis un peu le pavard de ton équipe.
Mais ça va pas lui plaire.
Ouais.
Ça va, mon Christophe?
J'espère que tu vas pas finir comme Renard, toi.
Oui. Renard lequel?
Wendy.
C'est pas ça. Une grande gueule qui, comme Robert Lewandowski, est une légende dans son pays. Comment ça, la Haute-Savoie, c'est pas un pays? Pascal Duprat, salut Pascal.
Salut les amis. Comment ça va?
Salut Pascal.
Salut Pascal, heureux de te retrouver. Match de l'équipe de France. Bref, nous allons nous nourrir, évidemment, de ton savoir. Une grande gueule.
Tu as vu quand même que tu n'attaques pas les puissants, hein. Tu n'attaques que les petits.
Tu parles d'une puissance.
Attends.
Toute relative.
Attends, Pascal, il est au chômage. Je vais quand même pas tirer sur une ambulance, mes copains. On est gentil avec Pascal. Ou une grande gueule qui, comme Robert Lewandowski, n'a jamais gagné Roland Garros. Sarah Pitkowski. Salut Sarah.
Bonjour à tous. Mais il y a quand même quelque chose qui est très très commun. Mes origines sont polonaises.
Oui, mais on voulait pas aller sur ce terrain.
Tu voulais pas aller sur ce terrain-là?
Non. Bon, on a réfléchi. On a
rien sur ma coupe de cheveux.
Non, ça c'était hier.
Tu sais que ma coupe de cheveux ressemble. Et c'était mon idole dans Jeanne et Serge. J'étais dingue de Jeanne, s'il te plaît.
Je pense qu'on s'est complètement trompé de vanne, on va la refaire. Une grande gueule qui, comme Robert Lewandowski, a une coupe dégueulasse. Sarah Pitkowski, salut Sarah. C'est mieux comme
bonjour
ça.
Bonjour à tous. Ouais.
Voilà.
C'est mon coiffeur qui va être content. Salut
une
Pascal.
Grande gueule qui, comme Robert Lewandowski, n'a pas besoin de 40 occasions pour la mettre au fond. Stephen Brun, salut Stephen.
Salut JC, salut tout le monde.
Ça va,
ouais, très bien.
T'as la forme?
Ouais, ça va.
Heureux de te retrouver également.
Et puis, en fait, on pense.
Toujours la avec moi, en fait.
En fait, il a pris la succession de Thomas Lombard qui avait cette réputation dans le Moscato Show. Aujourd'hui, le tireur d'élite, c'est.
Sauf que la différence de Thomas, moi, c'est juste une réputation.
Oui, mais c'est ce qu'il disait aussi. Une grande gueule qui, comme Robert Lewandowski, a dû changer d'équipe pour prouver que c'était lui le meilleur. Jean-Louis Tour, salut Jean-Louis.
Bonjour à tous, mais j'ai pas changé d'équipe, hein. Mais je suis pour RMC.
Non, mais attends, tu fais plus Rotten sans flamme, moi, sûrement.
Ah bah si, bien sûr.
Ah si, pardon, je pensais que vous avez grande gueule du sport.
Je vois que tu écoutes l'antenne pendant la Coupe du Monde. Il fait à bouffer. Chaque fois que je l'appelle, il est en train de faire à manger à ses enfants. Il ne suit pas du tout la Coupe du Monde.
Ah, parce qu'il y a la Coupe du Monde en ce moment.
Mais il paraît.
Ah, mais c'est génial. On va en parler alors, pas de problème les copains. Très heureux d'être avec vous, chers auditeurs. Également, émission de feu. Je le disais, on va débuter avec cette citation de Pascal Rose, qui a dit un jour, « Seuls les cailloux ignorent la peur ».
RMC. La une des grandes gueules du sport.
Avez-vous déjà eu peur?
Cette équipe de Pologne, elle a un noyau dur de joueurs qui ont une bonne expérience internationale.
Ouais.
Lewandowski, et ça y est, enfin. Ça y est, la série est brisée. Il a enfin réussi à marquer en Coupe du Monde.
Au pire cauchemar. Vont devenir réalité.
C'est le match piège par excellence.
Mais j'ai envie de dire qu'il faut qu'on arrête de vendre la peur.
Tenez-vous prêts.
La frappe de Mbappé.
C'est le moment.
Faut arrêter d'avoir peur. On est bon.
J'ai peur.
Non, la stratégie est excellente.
C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège.
C'est une petite musique qui monte depuis quelques jours. Une petite musique qui s'intensifie à mesure que le coup d'envoi arrive. Est-ce un match piège? Comment éviter le piège? Souvenez-vous, le 8e de finale contre la Suisse l'année dernière. Ah, ils ont Lewandowski. Ah, ils ont Chesney. Il a arrêté quand même le pénalty de Messi. Oui, très bien. Et les Bleus affrontent la 26e nation mondiale. Un gouffre, normalement, sépare ces deux équipes. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Faut-il arrêter d'avoir peur de la Pologne? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non.
Ça rappelle
bonne gens.
Moi, je vais défendre le oui.
Pascal Duprat.
Non, surtout pas. Ayez peur.
Stephen Brun.
Écoute, je vais aller sur le oui.
Jean-Louis Tour.
Je sais pas quoi répondre, j'ai même pas commencé à avoir peur. Ouais.
Donc, j'ai deux oui,
ça,
deux
c'est
non.
Bien français, ça.
Et Jean-Louis Tour voilà. Qui n'a pas peur. Voilà. Avant de débattre, l'un de nos envoyés spéciaux auprès des Bleus est avec nous, Nicolas Pelletier. Salut Nicolas.
Salut les GG, salut à tous.
Bon, les Bleus craignent-ils vraiment cette équipe ou c'est du discours?
Alors, quand on demande à Didier Deschamps, le sélectionneur, d'expliquer le jeu de la Pologne, vous allez l'entendre, un mot ressort avec insistance.
Cette équipe de Pologne a été amenée sur les trois matchs qu'elle a eu à faire en poule à défendre, à beaucoup défendre. Et elle défend très bien, mais c'est pas la limiter qu'à ça. Il faut respecter ce que fait et ce qu'a fait cette équipe de Pologne et qui mérite d'être là.
La Pologne n'offre pas un football très spectaculaire lors de cette Coupe du Monde et son sélectionneur assume totalement. Deux buts inscrits, deux buts encaissés en trois matchs. L'attaquant Kingsley Coman ne se fait aucun souci pour mettre à mal cette défense polonaise.
Après, je pense que c'est un style de jeu où on a souvent joué aussi des équipes comme ça. Donc, on va dire qu'on ne sera pas surpris par le style de jeu, mais on sait voilà, qu'ils ont une très grande force en contre-attaque. Hier, on a tous suivi le match, donc... Voilà, on va tout faire vraiment au maximum pour gagner cette rencontre.
Et bien évidemment, un homme sera scruté ce soir sur la pelouse. Robert Lewandowski, l'attaquant du FC Barcelone, a inscrit un but dans ce mondial face à l'Arabie Saoudite. Souvent esselé sur le front de l'attaque, le défenseur des Bleus, William Saliba.
Faut pas être impressionné, sinon après on va que regarder le joueur en face. Mais c'est sûr que c'est un joueur de classe mondiale. Et c'est un joueur où il faut faire attention. Après voilà, on a de très très bons défenseurs dans cette équipe de France. On a la chance d'en avoir. Donc voilà, on va essayer de le stopper.
À tout moment ce soir, ce sniper peut entrer en action. Sur le papier, la Pologne paraît largement abordable pour les Bleus. Mais le spectre de l'échec suisse en 8e de finale de l'Euro l'année passée pourrait rapidement revenir dans toutes les têtes si les Polonais poussent les Bleus au tir au but ce soir. Et face à eux, ils auront une arme. Le portier Chesney qui reste sur deux pénaltys arrêtés lors des deux derniers matchs.
Merci Nicolas Pelletier pour toutes ces précisions. Évidemment, tout au long de cette émission, on vous donnera les dernières informations de cette équipe de France et notamment la composition probable. Merci Nicolas. Faut-il arrêter d'avoir peur de la Pologne, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Christophe, pourquoi non?
Surtout pas malheureux, surtout pas. Là, on a du discours de façade, tu les entends tous, ouais, on craint cette Pologne, on craint Lewandowski, mais le problème des Français, du Français en général, hein, pas du footballeur français en particulier, c'est qu'il a souvent péché par excès de confiance et a été victime de cet excès de confiance. Dans toutes les compétitions, on lui dit, bon, tu affrontes un adversaire moins fort, ok, oui, on a très très peur, et en fait, t'en as pas peur du tout, et c'est là où il t'arrive les pires problèmes. On appelle ça la suffisance du coq, le sentiment de supériorité. Ce sont des défauts tellement latins qu'il faut combattre. Et je suis sûr qu'avec.
Tu es en train de faire la définition qu'il faut les craindre et qu'il faut en avoir un petit peu peur pour, au contraire, garder cette vigilance. Tu es en train de faire l'éloge de. Attention, comme on est sûr de nous en tant que Français, il vaut mieux en avoir peur pour rester vigilant.
Oui, c'est exactement ce qu'il dit, oui.
Bah oui. Exactement.
Mais en fait, il faut avoir peur.
Bah,
il faut avoir peur de l'excès de confiance, mais il faut pas avoir peur de la Pologne.
La question, c'est la différence. Faut-il arrêter d'avoir peur?
Ah, mais non, je suis comme lui.
Mais non, mais.
Ah oui, d'accord. Attendez. Il est 9h16. Et Sarah,
t'as raison, Sarah.
Viens de
tu te rallies à notre cause.
Très bien. Alors.
Non, mais Sarah.
Non, mais j'ai.
Bonjour,
non, mais c'était pas clair.
Heureusement qu'on n'était pas dans le bras.
Non, mais parce que. Alors, je peux dire la vérité.
La tournure n'était pas claire, je suis d'accord, Sarah.
Ah non, je peux révéler les dessous de cette émission, de la préparation de cette émission. C'est qu'à force de poser des questions interro-négatives et d'avoir 250 WhatsApp, je suis complètement paumée. Je ne sais plus où est la question.
Ça me va bien, et après on avancera dans le débat. Moi, ça me va bien que tu parles de la coulisse, mais moi, hier, quand j'envoie un message WhatsApp en disant dans 5 minutes, j'envoie les débats définitifs de cette émission et que tu me dis bah oui, mais c'est quoi les débats? Je ne comprends plus rien au conducteur. Bah oui, mais il y a
5 minutes,
donc
c'est sûr.
Je sais, quand tu nous envoies le conducteur, il faudrait peut-être que Stephen arrête d'envoyer ses conneries.
Oui, c'est vrai.
Alors, j'ai pas prononcé un mot du truc, mais ça revient dessus. Attendez, on va.
Non, mais faisons un vrai débat sur la préparation des GG. Je trouve ça vachement plus intéressant.
T'as bien raison, je pense que ça intéresse tous les auditeurs. Stephen, toi, t'as bien compris, et pourquoi tu réponds oui? Et après, j'arrive évidemment, Jean-Louis et Pascal.
Bah, parce qu'il faut aussi se rendre à l'évidence, et le constat, c'est que cette équipe polonaise est l'une des équipes les plus faibles qualifiées en 8e de finale. On les a vu jouer leurs 3 matchs. Il y a 5 tirs cadrés en 3 matchs, dont 3 contre l'Arabie Saoudite, qui n'est pas une énorme équipe. Il y a 26% de possession de balle. C'est une équipe qui est faible, en fait. Et ce qui me plaît, c'est que cette équipe, elle est à la fois faible, mais à la fois, elle inspire cette crainte. Et ce qui est bien pour les joueurs, et Didier Deschamps va pouvoir s'évertuer à instaurer cette crainte, parce qu'il y a Robert Lewandowski. Et c'est toujours bien, quand vous affrontez une équipe, d'avoir un petit danger. Ça vous permet de ne pas arriver sur la pelouse, comme peut le dire Christophe, avec cet esprit un petit peu condescendant, latin, en disant c'est facile, parce qu'il y a une vraie force en face qui est Robert Lewandowski. C'est-à-dire que les joueurs bleus vont arriver avec cette crainte du attention. Il y a peut-être le meilleur attaquant au monde sur la pelouse, donc soyons quand même sérieux. Après, il y a et Jean-Louis va nous en parler, parce que c'est un grand tacticien du football.
Bien sûr.
Cette équipe polonaise, elle est faible. Oui, il y a un bon gardien, mais qui a déjà arrêté 2 pénaltys. Il ne va pas arrêter 50 arrêts non plus sur un match. C'est une équipe qui ne fait que défendre. Robert Lewandowski, il ne touche pas un ballon dans la surface. Il est toujours loin. Il n'y a pas un mec pour lui donner des bons ballons. Je ne vois pas comment cette équipe de France. Alors, il y a cette jurisprudence, parce qu'on avait un peu le même discours à l'Euro face à la Suisse en disant c'est un bon tirage, c'est une équipe de pompe. Bon, on s'est fait attraper. Mais justement, là on est prévenu. On ne peut pas perdre contre la Pologne. Le niveau footballistique de la Pologne est bien plus faible.
Ouais.
Que ce qu'on était la Suisse à l'Euro déjà.
Et 98, est-ce que vous vous souvenez de 98 en 8e de finale?
Oui, le Paraguay.
Ça ressemble franchement. Alors, t'as gagné au tir au but en or, à 3 minutes de la séance de tir au but. Et dans les buts, il y avait un certain Chilavert. Et au fur et à mesure que la partie avançait, tout le monde se disait aïe aïe aïe, on va arriver au tir au but face à ce mec qui arrête tous les pénaltys. Et bien, Sheldon, il ressemble étrangement à Chilavert. Donc, il faut faire la différence rapidement avant la séance de tir au but, je vous le conseille.
Jean-Louis, rentre dans le jeu.
Non, alors moi j'ai juste une question quand même préliminaire. La présentation de JC, c'est un truc vraiment. C'est un truc vraiment qui arrive en France là. Tout le monde a peur de la Pologne, parle de Chesney, de Lewandowski. Peut-être je suis au Qatar, je suis loin, donc je me rends pas compte. Mais il y a une vraie peur en France là autour de la Pologne.
Bah oui.
Pour c'était juste un effet. Non, c'est vraiment. D'accord.
Non, mais
j'avais l'impression de pas m'en rendre compte.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où la France affronte une équipe, quelle qu'elle soit en face, on décrypte en long, en large et en travers, et donc on en fait des caisses. Donc évidemment
tous les spécialistes de foot, dont Jean-Louis, se disent c'est les doigts dans le nez, on va se friser les moustaches.
Mais alors c'est pas du tout ça que j'allais dire.
J'imagine que toute l'équipe à Doha doit se dire ça. Ce soir, on est en quart de finale. Demain, qu'est-ce qu'on fait?
Non. L'équipe autour de moi est là. Ah. L'équipe est pétrifiée. Je peux te dire que là, elle est morte de peur. Sans rigoler. Moi, je pense que il ne faut pas avoir peur de la Pologne. Il faut avoir peur éventuellement d'un excès de confiance. Ça, si vous voulez, on peut se dire que dans le sport de haut niveau, faut faire attention à ça. Ça, évidemment, ça fait partie des ingrédients indispensables pour aller loin. Mais juste sur l'équipe de Pologne, si on a peur de cette équipe, qu'est-ce que ce sera contre le Brésil ou contre une nation plus forte? On sortira même pas du vestiaire si déjà on a peur contre la Pologne. Moi, je pense que les joueurs, ils juste justement, ils sont sûrs de leur force et ils savent en plus les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber, à l'image du match face à la Suisse. Mais pour le reste, ils sont champions du monde en titre. La moitié de l'équipe est championne du monde en titre. La Pologne, c'est pas une équipe non plus si forte que ça. À partir du moment où tu les respectes,
c'est
tu les prends
des
pas de haut, ça va bien
on
se passer.
On va leur marcher dessus, hein, Jean-Louis.
Pascal,
parce que j'ai dit.
Toi qui évidemment a l'habitude d'être dans un vestiaire et d'essayer de marteler à des joueurs, attention à ne pas prendre.
Pascal, toi qui as l'habitude d'avoir peur, explique-nous.
Non, mais de marteler aux joueurs, attention, ce match, faut pas le prendre à la légère. Oui. Est-ce que ce discours, il marche ou non? Forcément, les joueurs.
Je pense pas que Deschamps ait besoin de rappeler aux joueurs que ce match-là, il faut pas le prendre à la légère. Par contre, moi, je pense que l'équipe de France réalise un très bon début de mondial, a fait deux très bons premiers matchs de poule, justement parce qu'elle n'était pas dans le confort. Elle avait perdu des joueurs blessés. En nombre, elle était un peu dans l'incertitude et cette incertitude, elle lui a permis de respecter ses adversaires. Donc là où je dis que la France doit continuer à avoir peur, c'est parce que la peur de l'adversaire, c'est le meilleur moyen de le respecter, cet adversaire-là. Quand j'entends Stephen me dire que les Polonais sont des pompes, as-tu vu lors de ce mondial, je sais que tout comme moi, tu regardes tous les matchs, est-ce que tu as vu une équipe faible, mis à part le Qatar dans ce mondial? Des équipes qui jouent pas comme ça te plaît, qui jouent pas selon les tendances du moment, mais des équipes qui sont cohérentes, à l'image de l'Australie hier, qui a mis en difficulté l'Argentine. Da Fonseca, il avait beau chanter en argentin, deux minutes de la fin, l'Australie aurait pu égaliser. Donc la peur, elle va donner la vigilance. Christophe, tu as bien fait de le rappeler, c'est un peu ce qui nous caractérise, nous latins, nous français, c'est de considérer que tout est facile sous prétexte que la Pologne ne présente pas un bon football depuis le début de la saison. Ayons la trouille, prenons les débats, par le bon bout, parce que tous autant que vous êtes, Jean-Louis et toi-même, si jamais à la mi-temps il y a 0-0 entre la Pologne et la France, vous allez vous faire dans le froc, les enfants. Vous m'entendez? Parce que la compétition, tout d'un coup, elle a changé. On n'est plus dans les phases de poule, on est dans l'élimination directe. Si la Pologne
est contrainte à aller aux prolongations, c'est l'événement, c'est la peur d'être éliminé, c'est la peur d'avoir un excès de confiance. Tout ça, oui, ça peut faire peur, mais c'est pas la Pologne en soi qui doit nous faire peur.
C'est pas le jeu polonais, Pascal. C'est pas le jeu polonais qui fait peur.
Mais tu as un gardien qui est infranchissable depuis le début du mondial. Mais
arrêtez,
bien sûr, s'ils sont qualifiés, c'est aussi grâce à lui. Il a arrêté deux pénaltys concours pour être le meilleur gardien du tournoi. Non, il faut faire attention à cette équipe-là. Et il y a une dernière chose que je voudrais soulever. Jusqu'alors, ils ont joué extrêmement bloc bas, bloc défensif. Qui nous dit que la Pologne va pas être plus audacieuse contre
la
France?
Ils ne peuvent pas face à nous. Ils peuvent pas le faire face à nous.
Mais tu vois, les joueurs qui composent l'équipe, tu crois qu'il y a des, que
c'est moi, ça me ferait plaisir, hein, qu'ils passent.
Pour moi, le plus faible.
Ça laissera de l'espace à Mbappé dans le dos de Glick, ce sera très bien.
Oui, voilà. Le seul, voilà, c'est bon. On tire à boulet rouge sur le sélectionneur. Mais je peux te dire que si l'équipe polonaise joue avec un bloc bas, c'est parce que Glick, il a la charrette. Tout simplement. Ok. Donc, attention à la Pologne. Et je pense que pour l'équipe de France, le plus important, s'ils veulent aller, bien sûr, en quart de finale, le plus important, c'est de respecter la Pologne.
Bon, Pascal, t'es anxiogène. Tu fais du mouron.
Je suis plus confiant que toi, mais ça va être difficile.
Mais j'ai pas dit que ne pas avoir peur et penser que cette équipe polonaise est la plus faible des équipes du 8e, ça veut pas dire qu'on est à l'abri d'une surprise monumentale. Tu sais pas ce qui peut se passer sur un match. Mais on va pas craindre les forces de la Pologne quand on est l'équipe de France, Pascal.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'expliques, toi, le couac contre la Tunisie? Tu l'expliques comment? Uniquement parce qu'il y a un neuf changement.
Mais il n'y avait pas,
c'est pas parce qu'il y a
neuf changements. Il n'y avait pas un joueur titulaire, il n'y avait pas un mec qui jouait à son poste.
Le 20e joueur de l'équipe de France, c'est un peintre. Mais quand même,
Pascal, t'as été entraîneur. Et tu sais très bien que quand tu peux faire 2-3 changements. Quand tu mets 2-3 mecs qui n'ont pas l'habitude du très haut niveau, mais tu les entoures de tauliers, ça se passe beaucoup mieux que quand tu mets 9 mecs novices.
Laisse-moi argumenter.
Tu les as mis dans
Tunisie,
les cordes, Pascal. Ils sont dans les cordes. Je vais compter.
Contre la Tunisie, on a fabriqué les ingrédients de l'échec. Ok? C'était normal que Deschamps fasse tourner. Mais en faisant tourner, on a fabriqué les ingrédients de l'échec. Parce que tout d'un coup, même ceux qui ont joué ce match des coiffeurs se sont dit c'est un match qui n'est pas important. Donc à partir de là, ça nivelle les valeurs. Attention, la Pologne est une très bonne équipe.
Mais Pascal, tu ne vas pas faire référence sur ce France-Pologne en huitième de finale avec ce que la France a montré face à la Tunisie, qui n'est pas du tout
parce la même qu'elle n'avait pas peur contre la Tunisie. Elle ne craignait rien.
Elle était déjà qualifiée.
Donc...
Tu vas avoir peur de quoi, Pascal?
Eh bien, elle n'avait pas peur, donc c'est pour cette raison. Contre la Pologne, il faut que l'équipe de France, okay, d'ailleurs, tous les suiveurs aient peur.
Je crois que Sarah a compris la question. Vas-y, Sarah.
Alors, après 26 minutes, ouais, ça y est, j'ai compris la question.
Vas-y, dis-nous.
Alors, je suis aussi de l'avis de Pascal et de Christophe. Après, le mot peur est peut-être un peu exagéré. En fait, ce dont j'ai un peu peur, c'est pas tant... finalement, de la Pologne, c'est la réaction de l'équipe de France face au jeu de la Pologne. C'est-à-dire, ma question et ma crainte pour les joueurs français, c'est quelle stratégie il faut aborder face à une équipe qui est ultra défensive. Est-ce que il faut aller vite, essayer de marquer vite et donc de se découvrir vite et peut-être de prendre un contre, ou est-ce qu'il faut jouer la patience, et c'est-à-dire bien poser son jeu, garder le ballon et aller marquer, mais sans se précipiter en fait. Et c'est là où moi je pense que cette équipe de Pologne nous fait peur, parce qu'en fait, tu as deux solutions pour aborder le match. Et ces deux solutions, je me demande laquelle les joueurs français ou peut-être Didier Deschamps va leur demander de faire. Est-ce qu'on va se retrouver comme hier face à l'Argentine, après une mi-temps où pas de but, et tu dis et ça commence à tourner, quoi. Le chrono tourne, qu'est-ce qu'on fait? Et plus on va avancer dans le temps, plus la précipitation pour être un contre et de se retrouver mené bêtement avec un contre 1-0, même si intrinsèquement l'équipe de France est plus forte. Et c'est en ça où je pense qu'il faut avoir et garder cette crainte de jouer face à des équipes comme la Pologne.
Eh bien, ayons peur, les copains, il n'y a pas de souci. J'ai compris aussi que cette question faisait débat. Donc, je vous propose la musique qui fout les jetons et cette question.
Qui a peur est un peu heureuse. Hein.
Ça n'a rien à voir, mais c'est très important.
Et tout, est-ce que rien comprendre.
Vous êtes pour ou contre le groupe WhatsApp des GG? Christophe Cessieux.
Contre. J'en peux plus, ce groupe.
Pascal et les blagues vaseuses.
Non, je suis pas
à longueur de colonne.
Jean-Louis Tour, toi le nouveau venu.
Moi, je suis pour les blagues, mais contre les arguments et les débats.
Très bien. Stéphane Brun.
Moi, je suis plutôt pour. Si ça me permet d'avoir une certaine liberté d'expression.
Très bien. Ça
et alors, moi, je suis pour si vous ajoutez les bons émoticônes pour savoir si on est au premier ou au deuxième degré. Parce que je suis assez binaire. Oui. Donc, en fait, je sais plus si on est au premier ou au deuxième degré, en fait.
Okay. Pourquoi on ferait pas deux groupes? Un groupe blague, un groupe débat.
Voilà.
Ou alors, est-ce qu'on ferait pas un groupe Sarah et un groupe les autres? Je blague, ma Sarah. Merci Jean-Louis Tour. On te retrouve à 10h, 11h à chaque fois que nous parlons de l'équipe de France en direct de Doha.
À tout à l'heure.
À tout
il
à
fait
l'heure.
Trois passages, Jean-Louis, là, aujourd'hui.
Eh oui, trois passages.
Oh, non, c'est donc, journée pour lui. Hein.
Bravo, Jean-Louis. Voilà. Et, on peut dire qu'il est gratuit, donc on peut dire qu'on prend souvent.
Bon appétit.
On se retrouve dans quelques
instants. À tout à l'heure.
Dans quelques
je pense
instants.
Pas tout le temps.
On va vous parler de Pelé avec certaines. Révélation, information qui inquiète évidemment le Brésil et le monde du foot. Dans quelques instants, la punchline de Luis Van Gaal, pardonnez-moi, qualifié pour les quarts de finale, mais il a critiqué ses joueurs. Vous comprenez ou vous comprenez pas? À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h33 en France, 11h33 à Doha, au Qatar. Les grandes gueules du sport, votre émission tous les samedis et dimanches de 9h à midi. À partir de 16h, c'est l'événement. Le match 8e de finale de notre équipe de France face à la Pologne. On sera là évidemment pour suivre cette rencontre. Le coq vient tout juste de se réveiller. Quand même.
Il est un peu à la bourre, hein.
Oui, pas très
matin.
Pas très matin.
Bon, bref.
Christophe Cessieux, Stéphane Brun, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, toujours avec nous. Dans une dizaine de minutes, nous allons faire un point sur l'état de santé du roi Pelé, qui a été admis à l'hôpital il y a quelques jours. Et forcément, le monde du football s'inquiète. On vous donnera toutes les dernières informations. Et à partir de 10h, sachez que nous reparlerons de notre équipe de France autour de Kylian Mbappé. Le premier qualifié pour les quarts de finale se nomme donc les Pays-Bas. Les Néerlandais ont battu hier les États-Unis 3-1 et affronteront l'Argentine au tour suivant, quart de finale. On pouvait s'attendre à un Luis Van Gaal heureux. Que nini, l'emblématique entraîneur, a critiqué ses joueurs après la rencontre. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Dat hebben ze in de tweede helft veel beter gedaan, vind ik.
Ce n'est pas acceptable au mondial. Si on joue comme ça contre les meilleures équipes, ça ne va pas le faire. Cela fait un an que je le dis, nous pourrons être champions du monde. Je ne dis pas que nous le serons, mais nous le pouvons.
Louis Van Gaal qui attaque ses joueurs après une première période qu'il juge ratée, mais qui dans le même temps dit nous pouvons gagner la Coupe du Monde. Est-ce une déclaration osée? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Pascal Duprat?
Non.
Sarah Pitkowski?
Non, j'ai compris la question.
Stephen Brun?
Non.
Pourquoi non, tout le monde? Les bras m'en tombent. Qui veut se lancer, Stephen? Pourquoi non?
Moi, je trouve pas ça osé de la part d'un coach qui, de toute évidence, a envie, qui est pas sur la même longueur d'onde que ses joueurs, et enfin, parce que même Fils de Paille, il a contredit un petit peu ses joueurs, Louis Van Gaal. Moi, j'ai l'impression que c'est un coach qui a envie d'entrer dans la tête de ses joueurs, que c'est possible, qu'il faut y croire, mais qu'ils peuvent pas se permettre de jouer. Alors, c'est un peu contradictoire ce match des Pays-Bas hier, parce qu'ils mènent 2-0 à la mi-temps, alors que la première mi-temps est pas terrible. Ils sont un peu dominés par les Américains, mais malgré tout, il y a 2-0, alors que la deuxième mi-temps est bien meilleure, mais ils font 1-1 sur la deuxième mi-temps. Donc, il est paradoxal ce match des Pays-Bas. Maintenant, Louis Van Gaal, il est persuadé qu'il a la qualité pour, il a envie de faire croire à ses garçons, de dire... Si on est bon sur 90 minutes, si on joue comme la deuxième mi-temps, on peut le faire. Il faut que vous croyez en vous, parce que moi, je crois en vous. Je pense que c'est un bon discours de coach. Et il a raison, parce que les Pays-Bas ont des qualités. En plus, on les attend pas vraiment au bout. C'est un peu, quart de finale, c'était un peu l'objectif de cette équipe-là, parce que c'est peut-être une équipe qui est en reconstruction, avec un sélectionneur qui est un petit peu sur la fin aussi, mais qui a du talent. Hier, on les voit jouer. Le premier but, il est fantastique. Donc, il y a de la qualité. Voilà. Et je pense qu'il a envie de persuader ses garçons d'y croire et pas se dire, on est en quart de finale. C'est déjà un aboutissement pour nous. Non, croyons en nous, on peut être champion du monde et il faut y aller.
Ok, c'est le bâton et la carotte.
Van Gaal, tout au long de sa carrière d'entraîneur, il nous a habitués quand même à des sorties qui ont été qualifiées d'arrogantes. Il a toujours eu une très haute idée de sa personne et de ses qualités. Lorsqu'il a été rappelé, là, c'est la troisième fois, c'est son troisième mandat à la tête des Oranges, il disait j'y vais car il n'y avait pas d'entraîneur disponible et certainement pas de ma qualité. Uli Hoeneß, qui a été son président au Bayern de Munich, disait de lui le problème avec lui, c'est pas qu'il se prend pour Dieu, mais pour le père de Dieu. Hein. Voilà, comme ça, ça te caractérise un peu le personnage. Et le père de Dieu, il est en mission. Il est persuadé que sa formation a la qualité pour enfin gagner. On rappelle qu'il avait pris qu'il avait amené les Oranges en demi-finale de la Coupe du Monde. C'était en 2014, je crois.
Exactement.
Où ils avaient été battus par l'Argentine. L'Argentine qui avait déjà battu la Hollande en finale de Coupe du Monde 78. Donc pour Van Gaal, là, c'est l'objectif, c'est taper l'Albicéleste. Ouais. Et même si son équipe ne joue plus de la même façon que les Hollandais enchanteurs qui nous régalaient dans les années 70. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus réaliste. Mais peut-être que ça va enfin gagner parce que cette équipe, elle a disputé trois finales de Coupe du Monde et elle n'a jamais gagné. Et aujourd'hui, avec Van Gaal, elle est vraiment en mission, j'ai l'impression.
Ça va ?
Mais moi, je vais rajouter avoir lu que quand il accepte le poste, il dit « Je ne suis pas d'accord avec ma fédération qui vient de me nommer ». On me demande d'arriver en quart de finale. Moi, je pense qu'on peut gagner. Donc déjà, cette déclaration-là, il l'avait même avant de commencer la Coupe du Monde. Donc il est un peu sur le même registre. Ce qui est assez étonnant, c'est que. Alors, est-ce que c'est le football hollandais qui est comme ça? C'est qu'en fait, ils acceptent. En tout cas, lui n'accepte pas que son équipe gagne en jouant mal. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer du beau football. Et juste pour revenir par rapport au tennis, il y avait le coach d'André Agassi qui disait « winning ugly ». C'est ça, c'est là où on progresse.
Gagner
en jouant mal, c'est là qu'on progresse et qu'on est le plus dangereux. Donc c'est pour ça que je pense que il est un peu brutal et arrogant, mais il va falloir se méfier des oranges face à l'Argentine. En tout cas, ça va être un superbe match. Mais il est quand même un peu étrange, ce monsieur de 71 ans. C'est un peu l'ancienne école. Hein. C'est-à-dire que ça passe plus par les filtres.
Pour revenir sur Sarah qui dit qu'il est un peu étrange, je ne sais pas si vous vous rappelez Luca Toni, qui est un attaquant italien, qui racontait qu'il a joué pour Louis Van Gaal au Bayern Munich. Et il parlait des méthodes de Van Gaal. Il dit un jour, pour asseoir son autorité et pour dire qu'il avait le pouvoir au Bayern Munich et qu'il pouvait mettre qui il voulait sur le banc, il a dit moi, j'ai une grosse paire de baloches. Il est arrivé dans le vestiaire, il a baissé son falzar, il a montré son costume trois pièces et il s'est barré.
Ça place un homme dans l'histoire et dans un vestiaire.
Pascal faisait ça régulièrement.
Pascal, c'est une stratégie classique d'entraîneur. C'est
bien sûr.
Attends, j'ai pas fini la phrase. Non, je parle pas du coup de.
Je te vois venir.
Non, je parlais pas du coup du falsa. Je parlais du coup de la carotte et du bâton, tu vois. Enfin, plutôt là, fait, le bâton et après leur dire oui, mais vous pouvez gagner, les mecs.
Bon, je pense que c'est ce qu'il faut lorsqu'on est entraîneur. Mais encore une fois, je dis ça avec beaucoup d'humilité. Van Gaal, c'est quand même une sommité. Ce qu'il faut, c'est surprendre. Voilà, le coach qui a le même discours, très vite, son discours, il s'érode. Et ses joueurs, ils ne l'écoutent plus déjà, qu'ils ont tendance à pas trop écouter de nos jours. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est que hier, la première mi-temps, elle n'est pas si mauvaise que ça, bien au contraire. Parce qu'ils mènent 2-0, parce que ce sont les Américains qu'on c'était la journée porte ouverte, donc ils ont oublié de défendre, c'est pour ça que les Bata vont gagner 2-0. Ce que veut dire Van Gaal, à mon avis, c'est que c'est certainement l'une des meilleures équipes du monde. Voilà, la génération dont disposent les Pays-Bas aujourd'hui, avec Van Dijk, qui est le meilleur défenseur du monde, qui organise cette défense merveilleusement bien. C'est que si cette équipe, justement, ne joue sans en étant humble, ce que les Hollandais ont beaucoup de mal à faire dès lors qu'ils obtiennent quelques résultats, eh bien cette équipe peut surprendre et peut aller jusqu'au bout. Parce que vraiment, cet effectif est un effectif de qualité. Donc Van Gaal, il dit simplement à ses joueurs, vous avez
autant de talent pour
aller au bout. Ouais. Comment?
Il a envie de dire à ses joueurs de les persuader que vous êtes aussi fort que les autres favoris de cette Coupe du Monde. Il n'y a pas de complexe.
En termes de jeu collectif, même si on l'a beaucoup critiqué, en termes de jeu collectif, c'est du niveau de la Croatie. Pour ma part, c'est les deux équipes qui m'ont le plus impressionné depuis le début du mondial. Donc les Hollandais, attention. Et Van Gaal, il est antipathique. Il a une coupe de cheveux à pleurer. C'est pas parce que je suis chauve que je dis ça, mais il a le savoir et il est en train de régler son équipe de telle sorte qu'elle soit ambitieuse, mais avec de l'humilité. Voilà ce que j'en pense.
Merci beaucoup, Jean-Louis David. On va passer à autre chose. Et c'est vrai que ce match Pays-Bas-Argentine, on a déjà envie d'y être pour ce quart de finale de la Coupe du Monde, un quart de finale, évidemment, qui promet. Je regarde la date, j'ai un petit
c'est vendredi 20h.
C'est super. Voilà, vendredi 9 à 20h. Merci beaucoup, ma chère Sarah, pour
J'ai vu le but américain. Tu l'as vu ou pas?
Oui, il
a pas fait exprès, le mec.
Il a fait un rétro.
Tu penses que le but australien, il l'a fait exprès ou pas?
Non, mais lui, il a l'intention de frapper au but.
Oui, il frappe au but, elle est contrée.
L'américain, il court comme Forrest Gump tout droit, le ballon vient.
Je suis pas sûr que le ballon reste dans le stade normalement.
Oui, mais bon, au moins, il a une tentation.
Elle est hors cadre, mais l'intention, c'est de frapper au but. Tandis que l'Américain, il veut pas frapper au but. Il sait pas ce qu'il fait, en fait.
Non, je pourrais.
Allez, 9h42. On revient dans quelques instants. À partir de 10h, on parlera de Kylian Mbappé et de Chesney, qui a provoqué, évidemment, de manière humoristique, l'attaquant français. Mais est-ce audacieux ou dangereux? On se posera la question. Et puis, dans quelques instants, les dernières informations de la santé autour de Pelé. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport. RMC.
Rien sur ma coupe de cheveux.
9h midi, les grandes gueules du sport.
Tu sais que ma coupe de cheveux ressemble. Et c'était mon idole dans Jeanne et Serge. J'étais dingue de Jeanne.
Jeanne et Serge, coup de foudre, moi je te vole les bords.
Jean-Christophe Drouet.
Avec Sarah Pitkowski, évidemment, dans cette émission des grandes gueules du sport ce matin. Pascal Dufra, Stephen Brun. Christophe Cessieux, il est 9h46 en France, 11h46 au Qatar à 16h. France-Pologne, 8e de finale de la Coupe du Monde. Sachez que nous allons reparler des Bleus à partir de 10h avec cette phrase de Chesney, le gardien polonais, la meilleure arme pour arrêter Mbappé. C'est moi-même, est-ce audacieux ou dangereux? Ce sera notre débat. N'hésitez pas à réagir au 32-16 et on vous donnera également à partir de 10h les dernières informations compo autour de cette équipe de France.
RMC, les grandes gueules du sport, spéciale Coupe du Monde.
C'est une information d'un média brésilien qui a fait trembler, le monde du foot. Selon le quotidien Folha de Sao Paulo, le roi Pelé, 82 ans, a été placé en soins palliatifs à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Le corps du roi, qui lutte contre un cancer du côlon depuis 1 an et 3 mois, ne répondrait plus à la chimiothérapie. L'établissement médical avait pourtant communiqué sur une amélioration de sa santé vendredi et assuré qu'il était victime d'une infection respiratoire. Juste après cette information, donc de samedi, les stars du foot ont réagi comme Kylian Mbappé adoubé il y a plusieurs mois par le roi Pelé. Le Français a publié un message de soutien sur ses réseaux sociaux. Priez
pour le roi. Dans la foulée, le Qatar a projeté aussi le portrait du génie brésilien sur ses bâtiments avec cette phrase « Rétablis-toi bien ». Le mystère entoure toujours l'état de santé de Pelé. Hier, en fin d'après-midi, communiqué médical qui indique que le triple champion du monde a été admis pour une réévaluation de la chimiothérapie contre la tumeur du côlon identifiée en septembre 2021. Il suit toujours un traitement et son état de santé reste stable. Vers 22h, en France, un message rassurant a également été posté sur le compte Instagram de Pelé. « Mes amis, je veux que tout le monde reste calme et positif. Je suis fort, avec beaucoup d'espoir et je suis mon traitement comme d'habitude. J'ai une grande foi en Dieu et chaque message d'amour que je reçois de vous partout dans le monde me donne plein d'énergie. Et regardez aussi le Brésil en Coupe du Monde. Merci pour tout. » Fin de citation. Donc ce message de Pelé sur les réseaux sociaux. Votre regard sur cette histoire, et ensuite nous partirons à Doha car nous avons été hier soir avec des supporters brésiliens et on verra évidemment leur humeur et leur état d'esprit. Christophe sur Pelé.
Sur cette situation actuelle.
Exactement.
Bah,
non pas médicale, mais
c'est
en tout
pas,
cas
c'est pas du tout rassurant quand on te parle de soins palliatifs, quand on te dit que ton corps ne réagit plus à chimiothérapie. Franchement, je pense que ces heures sont comptées et c'est terrible. Et je pense que le Brésil va vraiment entrer en journée de deuil, tant il représente quelque chose d'énorme dans ce pays. C'est quand même lui qui a amené ce pays à être fier de lui-même. Après la défaite en 1950, en 58, ce jeune garçon qui a 17 ans marque deux buts en finale, écrase la France à lui tout seul en demi-finale et rapporte le trophée au Brésil. Derrière, ça a été une folie douce tout autour de ce garçon. En 62, il est à nouveau champion du monde, même s'il est blessé, il dispute
partie
de la
Coupe
du Monde. Et puis en 70, c'est son œuvre extraordinaire, Coupe du Monde, la plus belle Coupe du Monde de l'histoire, et cette victoire 4-1, je crois, en finale contre l'Italie. On n'a pas idée de ce que représente Pelé dans le cœur des Brésiliens. Je veux dire, à côté Platini, Zidane, Copa, c'est de la gnognotte. Là-bas, c'est un dieu vivant, on l'appelle le roi El Rey Pelé, et je pense que tout le pays est très tendu. Déjà, il y a quelques années, il n'était pas passé très loin, et le Brésil vraiment retient son souffle, mais là, à mon avis, c'est quand même assez mal barré.
Ça a été une journée très compliquée hier où évidemment on essayait de chasser des informations pour connaître l'état de santé réel du roi Pelé. C'est extrêmement compliqué, il faut bien le dire. Donc je vous ai donné quelques informations, mais forcément elles risquent d'être incomplètes car on ne sait pas et jamais dans ces cas-là vraiment ce qui se passe. Hein, et on peut le comprendre autour de la famille. Sarah Pitkowski.
J'ai trouvé des propos de la fille de Pelé qui, elle, a tendance à pas être aussi alarmiste.
Oui, à positiver.
En disant, elle se trouve pas au Brésil, hein, ses deux frères sont au Brésil et elle dit que pour l'instant, elle prend pas le premier vol pour venir et qu'il est en train de tester un nouveau traitement parce qu'effectivement, la chimiothérapie ne répond plus. Donc, je comprends ce côté très alarmiste au Brésil puisque avec ce qu'il représente, on sait que de toute manière, il est probablement plus proche de la fin, mais toute proportion gardée, de notre point de vue, je pense qu'il faut être un petit peu mesuré, mais je comprends qu'au Brésil, voilà, ils vont passer des jours un peu compliqués entre l'euphorie d'un match de l'équipe nationale et leur dieu vivant. Je pense que les Brésiliens vont passer par des émotions qui sont très différentes dans les prochains jours et les prochaines semaines.
On retrouve l'un de nos envoyés spéciaux à Doha, au Qatar, c'est Martin Bourdin. Salut Martin.
Salut à tous.
Salut.
Alors hier, tu étais avec des Brésiliens et on l'imagine, c'est toute une communauté qui s'inquiète pour son roi.
Exactement, il suffit de prononcer le nom de Pelé finalement pour comprendre l'inquiétude, même la peur de ces Brésiliens présents ici à Doha. Dès qu'on commence à parler du roi, les yeux deviennent humides, les larmes ne coulent pas encore, mais les mots sont tout de suite difficiles à trouver. Celui qui m'en a parlé avec le plus d'émotion hier, c'est Bruno, il a 27 ans, il n'a évidemment jamais vu jouer Pelé sur un terrain de foot, mais il est extrêmement préoccupé par l'état de santé de la légende.
C'est vraiment difficile à voir. On l'adore. Quand j'en parle, j'ai des frissons. Quand j'ai vu qu'il allait en soins palliatifs, j'étais vraiment triste. J'ai beaucoup pleuré. On verra ce qui se passe. C'est dans les mains de Dieu maintenant.
Dans les mains de Dieu maintenant. Martin, est-ce qu'ils arrivent à profiter du mondial? Est-ce qu'ils parlent de ce huitième de finale demain face à la Corée du Sud, où ils sont vraiment abasourdis par ces mauvaises nouvelles?
Oui, il continue de penser aux sportifs, hein, tous ces Brésiliens. J'en ai croisé pas mal hier à la sortie du match entre les Pays-Bas et les États-Unis, le premier huitième de finale de cette compétition. En tribune, il y en avait certains qui agitaient des drapeaux brésiliens, qui essayaient de faire la fête, mais en dehors du stade, beaucoup étaient sur leur téléphone en train de scruter les réseaux sociaux, notamment pour essayer de trouver des infos sur Pelé, sans qu'ils soient toujours très sûrs de ce qu'ils les écoutaient.
Je ne suis pas sûr qu'on sache tout de son état de santé réel. Tout le pays prie pour lui.
Et il y en a qui prient peut-être un peu. Il y en a un qui prie peut-être un peu plus que les autres. C'est Vitor. Quand je l'ai croisé hier, il portait le maillot du Brésil, le nouveau maillot, celui de cette année, mais floqué au nom de Pelé. Et en parlant avec lui, j'avais presque l'impression que cette Coupe du Monde était déjà terminée.
C'est difficile de se concentrer sur la compétition avec cette situation.
Nous déjà sommes ici et vamos.
Mais on est là, donc on va essayer de se concentrer sur le jeu et envoyer des ondes positives pour la santé de notre roi.
Et ce qu'ils espèrent aussi tous, ces Brésiliens, c'est que l'état de santé de Pelé donne un supplément d'âme finalement aussi à la Seleção, que ce soit une motivation supplémentaire pour soulever le trophée dans deux semaines ici à Doha.
Merci beaucoup Martin Bourdin pour toutes ces précisions. Évidemment, on te retrouvera dans différentes éditions pour évoquer le cas de santé du roi Pelé, notre roi.
Notre roi,
vous l'avez
roi,
entendu, vous l'avez entendu de la part des Brésiliens et de certains supporters brésiliens. Stephen Brun.
Non, mais moi je suis toujours épaté par la puissance que peut avoir ce garçon à travers les générations, parce que moi je suis quelqu'un qui est pas connu, je suis de génération 80, j'ai pas vu jouer Pelé, mais j'ai tous vu ses exploits, sa traversée du terrain avec Santos au Maracana devant 120 000 personnes, ce but où il traverse le terrain, c'est inquiétant, forcément c'est inquiétant quand on arrive à ce stade-là médicalement. Après, est-ce que cette équipe du Brésil qui en ce moment même à la Coupe du Monde va pas être soit impacté émotionnellement ou soit jouer pour lui, ça va être à double tranchant quand on sait que les charges émotionnelles que peuvent ressentir les Brésiliens, ils sont très très fragiles émotionnellement là-dessus. Rappelez-vous les hymnes de Thiago Silva en larmes et compagnie. Donc j'espère pour eux que ça va avoir un effet bénéfique plutôt que anéantir un peu émotionnellement et les impacter sur le terrain. Mais après on espère que ça va aller dans le bon sens, parce qu'on n'a pas envie, bien sûr, de faire une émission spéciale Pelé parce qu'il nous a quittés. On a envie de continuer à parler de ses actions et qu'il lui puisse éventuellement assister au sacre des Brésiliens en 2022.
Pascal Duprat.
En 70, j'avais 8 ans, donc c'est les premières images du foot pour moi à la télé. Il y avait peu de foot à la télé à l'époque. Mais il est vrai que la Coupe du Monde au Mexique, elle avait été retransmise. Et
Pelé, en couleur, c'était la première qui était en couleur.
Et Pelé, c'était un magicien, en fait. Pour tous les jeunes footballeurs, c'était un magicien, et j'imagine. Et je l'ai vu, parce que je suis allé deux fois au Brésil. Je peux dire que c'est vraiment, vraiment le roi, tel qu'ils le disent. Alors, il a ceci de particulier, c'est que, malheureusement contraint par sa maladie, il occupe l'espace. Et en fait, c'est pour moi, je vois ça comme un message, c'est-à-dire un passage de témoin et une bonne raison pour les Brésiliens de s'arracher pour obtenir leur sixième couronne. Donc, je suis certain qu'ils vont jouer pour Pelé, bien sûr. Et je suis certain que ça va les impacter favorablement pour cette finale que j'espère contre la France.
Voilà ce que l'on pouvait vous dire en tout cas sur l'état de santé du roi Pelé. Évidemment, toutes les dernières informations sont sur rmcsport.fr.